pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Looking on various street corners, I'm sure you've seen it yourself, and spouting the news that the revolution is coming and you better get ready. It's sort of like the end of the world is coming. Unfortunately, the world is just going to drag on and on.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Bonjour, nous sommes à San Francisco en Californie pour le Global Climate Action Summit, le sommet mondial de l'action pour le climat. Une première dans l'histoire, plus de 4000 élus, chefs d'entreprise, représentants d'ONG et de peuples autochtones sont venus d'une centaine de pays. Ils ont répondu présents à l'appel de Jerry Brown, le gouverneur de Californie, hôte et organisateur de ce sommet. Ce sont eux qui portent le drapeau pendant que les gouvernements somnolent, a-t-il martelé. Et c'est vrai, car comme vous allez l'entendre, les participants à ce sommet ont démontré toute la semaine par leurs engagements que gagner la bataille contre le changement climatique est possible, même si, comme l'a rappelé le gouverneur Brown, nous ne sommes encore qu'au camp de base du mont Everest.
C'est pas du vent sur RFI.
Ce sommet est aussi un bras d'honneur à Donald Trump. Non, la société américaine n'est pas climato-sceptique comme son président. De nombreuses entreprises, des États et des villes sont engagées dans la transition écologique.
Have you ever been to Pittsburgh? Do you think you wanna go? Well, if you wanna go to Pittsburgh, get on a bus and go!
Démonstration avec Bill Peduto, le maire de Pittsburgh en Pennsylvanie. Cette ville de 2,5 millions d'habitants a été pendant des décennies la capitale mondiale de l'acier. Aujourd'hui, elle attire les start-up et les universités.
Pittsburgh, c'est l'image de l'Amérique qui s'est retombée sur ses pattes. Dans les années 1980, nous sommes pratiquement morts. Notre économie s'est effondrée du fait de l'effondrement de l'industrie de l'acier et nous avons donc dû nous réinventer. Et nous avions bien compris à ce moment-là que même si nous étions fiers de qui nous étions, nous avons compris que notre avenir allait être complètement différent. Et aujourd'hui, Pittsburgh est la ville où il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles.
En juin 2017, quand Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait retirer les États-Unis de l'accord de Paris, un de ses arguments a été « J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, non pas ceux de Paris ». Comment avez-vous réagi à ce moment-là ?
I was shocked. First, I was upset of his decision.
Eh bien, tout d'abord, je dirais que j'ai été choquée. D'une part, j'étais consternée par cette décision parce que moi-même, je me trouvais à Paris en compagnie de 500 maires. Et à Paris, nous avons dit au monde entier, eh bien, nous avons compris ce qu'il fallait faire pour changer les choses au niveau local. Et de plus, j'ai été choquée de voir les États-Unis adopter une position si radicale. Et sur le plan personnel, je connais bien les sacrifices consentis par la population de Pittsburgh. Les gens ont vu leurs proches, leurs amis partir de Pittsburgh parce qu'il n'y avait pas plus d'emploi. Et vous savez, cette transition d'une industrie lourde au secteur de la science, au secteur médical, au secteur de la technologie, eh bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu l'engagement de toute la population de Pittsburgh. Et je dirais que le président a simplement utilisé un stéréotype, une image du Pittsburgh d'hier pour faire une déclaration de choc.
Et si vous êtes venu ici au Global Climate Action Summit, c'est aussi pour montrer cette image d'une Amérique qui est engagée dans la transition écologique.
Lorsque le président a fait cette déclaration, il y avait 61 villes américaines qui s'étaient déclarées comme étant des villes du climat, partout aux États-Unis, et qui avaient dit « nous allons respecter l'accord de Paris ». Aujourd'hui, il y a 407 villes de ce type. Alors, ce sont des villes qui ont des maires démocrates, qui ont des maires républicains, mais surtout qui ont des maires pragmatiques, qui comprennent bien le rôle vital que doivent jouer les États-Unis pour prendre soin de la planète. Et ma présence ici, c'est aussi le signe de l'engagement d'une ville comme Pittsburgh, dont l'économie reposait sur les combustibles fossiles, dont l'économie reposait sur le charbon. Et si nous avons pu changer, évoluer une ville comme la nôtre, eh bien, cela montre que ça peut être facile aussi pour d'autres villes d'évoluer dans le même sens.
Quels sont les défis que vous avez devant vous pour vraiment faire de Pittsburgh une ville durable aujourd'hui ?
Like all cities around the world.
Comme dans toutes les villes du monde, nous subissons les effets du changement climatique. Et cela se traduit en particulier par des tempêtes extrêmement graves qu'on voyait auparavant tous les 20 ans et qu'on voit maintenant plusieurs fois par an. La semaine dernière, par exemple, nous avons enregistré des chutes de pluie de 18 cm d'eau qui sont tombées en 48 heures. C'est la deuxième fois qu'on enregistre une tempête d'une telle gravité depuis que l'on surveille ces phénomènes météo. Nous sommes une ville de collines et donc les glissements de terrain sont un problème. La saturation des sols en eau cause la rupture de conduites diverses. Les routes ne sont plus adaptées à la circulation en toute sécurité. Notre infrastructure souffre énormément et cela se traduit par des pertes de dizaines de millions, de centaines de millions, bientôt de milliards de dollars. Et bien sûr, il y a un prix aussi au niveau de la vie humaine. Les pertes de vie, nous les subissons aussi.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est un peu une ironie de l'histoire? Pendant des décennies, vous avez pollué, enfin pas vous directement, mais la ville avec donc une activité extrêmement polluante en fabriquant de l'acier. Et aujourd'hui, vous devez faire face directement aux conséquences des changements climatiques. Est-ce qu'il y a une ironie de l'histoire selon vous?
I don't know if it's ironic.
Alors, je ne sais pas si c'est une ironie de l'histoire ou si c'est une décision consciente qui a été prise il y a un siècle. Nous avons bâti notre économie sans nous soucier de l'environnement, sans nous soucier des gens. À l'époque, Pittsburgh était une grande ville industrielle. C'était un des premiers producteurs d'acier au monde et c'était aussi une ville riche. Mais où l'air était dangereux à respirer, où l'eau était contaminée et surtout où il y avait un énorme écart entre ceux qui étaient riches et ceux qui étaient pauvres. Et ceux qui étaient pauvres, par exemple, eh ben, c'était mon grand-père qui travaillait dans les hauts fourneaux. Et ceux qui étaient riches, eh ben, c'était ceux qui étaient à la tête de ces hauts fourneaux. Lorsque les gens de Pittsburgh se sont rendus compte de ces problèmes, ils ne s'en sont pas remis au gouvernement fédéral pour résoudre ces problèmes. Nous avons voté la première loi sur la propreté de l'air 20 ans avant que le Congrès américain ne vote une telle loi, 30 ans avant que l'EPA, donc l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, ne soit créée. Et nous avons tous collaboré ensemble avec les industries pour nettoyer notre air, pour nettoyer l'eau des rivières, et pour essayer de réinventer notre économie. Nous sommes aussi à l'origine du mouvement syndical aux États-Unis. Nous avons mobilisé les travailleurs dans les hauts fourneaux, dans les mines, dans les usines. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux défis. Et nous avons bien compris que si nous collaborons, quelle que soit la personne qui se trouve à la Maison-Blanche, eh bien, si nous collaborons, nous arriverons à résoudre ces problèmes. Si nous collaborons avec d'autres villes, si nous collaborons avec des partenaires dans le monde entier.
Votre histoire peut servir d'exemple pour les pays en développement qui s'interrogent sur leur modèle de développement.
Je n'ai aucun doute que l'histoire de Pittsburgh peut être adoptée par les pays en développement qui se posent des questions et peut leur permettre d'éviter de commettre les erreurs que nous-mêmes nous avons commises. Mais Pittsburgh peut aussi servir d'exemple en tant que ville du 21e siècle où nous accordons de la valeur non pas uniquement au profit, mais à nos quatre piliers, c'est-à-dire les gens, la planète, les lieux de vie et les performances. Et c'est en fonction de ces quatre critères que nous décidons où investir, que nous décidons de soutenir tel ou tel projet de politique. Et pas simplement en fonction des emplois créés ou en fonction des revenus générés.
Oh.
Les représentants des peuples autochtones du monde entier ont manifesté devant le Moscone Center où se déroulait une partie du sommet mondial de l'action pour le climat avec un refrain « Notre planète n'est pas à vendre ». Mais la préservation des écosystèmes comme solution pour lutter contre les changements climatiques était au centre des discussions de nombreuses conférences. Une prise de conscience récente et encore insuffisante, comme l'explique Shaila Raghav en charge du climat pour l'organisation Conservation International.
Almost every conversation about climate change focuses on technology.
Les conversations que nous avons sur le changement climatique, on se focalise sur la technologie, les combustibles fossiles.
On climate change neglects
and undervalues. Souvent, le fait que beaucoup de solutions résident dans la nature. En effet, les écosystèmes naturels, nos forêts, nos sols, nos terres, stockent comme des éponges en quelque sorte le carbone. Et lorsque nous détruisons, lorsque nous endommageons, lorsque nous brûlons ces écosystèmes, cela contribue au problème du changement climatique. 11% des émissions mondiales viennent de la déforestation tropicale. En investissant dans des solutions basées sur la nature, en gérant nos forêts, en investissant dans la restauration des forêts, en éliminant ou en réduisant la dégradation des écosystèmes naturels, eh bien, nous avons un tiers des solutions disponibles pour lutter contre le changement climatique. Mais nous recevons simplement 3% des finances mondiales. Cela veut dire qu'il y a une inadéquation entre le potentiel des solutions basées sur la nature et les investissements qui y sont alloués.
Et c'est vrai que même d'un point de vue médiatique, on parle très peu de ces solutions.
3%
des investissements financiers, 1% de toute l'attention que les médias portent à cette question de lutte contre le changement climatique. Donc 1% de toutes les conversations, de tous les débats qui portent sur ce sujet. Et si les gens n'en sont pas conscients, ils ne vont pas investir dans ce type de solution. C'est pour cela que notre rôle ici est d'améliorer la visibilité de cette thématique.
Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tout énumérer, mais est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces solutions qui pourraient être simplement étendues à l'ensemble de la planète ?
Alors, je dirais que la solution la plus rapide, la plus facile, ce serait la protection, le fait d'éviter la perte de l'écosystème. Les écosystèmes comme les mangroves, les forêts primaires stockent énormément de carbone. Lorsque ces environnements sont perdus, ils ne peuvent pas se remettre suffisamment rapidement. Et donc, il est important que dans les zones prioritaires, on s'assure qu'on ne perd pas ces zones riches en carbone. Deuxième chose, réduire les moteurs qui conduisent à la déforestation tropicale. 80% de la déforestation tropicale est causée par l'agriculture. Et généralement, on attribue cette perte à 4 grands facteurs. L'élevage bovin, l'huile de palme, le soja
and pulp and paper.
Et tout ce qui concerne l'industrie du papier.
Yes. These are the largest drivers of deforestation.
Ce sont les 4 grands moteurs de la déforestation. Il est donc critique que nous travaillions avec le secteur privé et d'autres entités pour éliminer ces moteurs, pour créer des utilisations plus durables de nos terres.
L'État de Californie a compris depuis longtemps que les écosystèmes étaient des alliés dans la lutte contre le changement climatique. Quand le gouverneur Jerry Brown a annoncé cette semaine, à la surprise générale, que son État, tout de même la 5e économie mondiale, serait neutre en carbone d'ici 2045, il avait bien en tête ce potentiel. Explication avec Jenny Lester Moffitt, secrétaire adjointe du département de l'alimentation et de l'agriculture de la Californie.
Oui, donc en fait, lorsque le gouverneur Brown a fait cette annonce, l'idée, c'était bien entendu de réduire les émissions de carbone, mais aussi de séquestrer le carbone dans les sols. Alors dans les sols, dans les arbres. Et donc ça représente un énorme potentiel pour l'agriculture. Le fait de viser à une réduction des émissions causées par l'agriculture, mais aussi d'utiliser les sols pour séquestrer le carbone. Par exemple, utiliser aussi des plantes qu'on fait pousser dans l'agriculture pour leurs fibres ou autres, les utiliser pour récupérer ce carbone et le réinjecter dans le sol, là où il a vraiment sa place.
Alors on peut peut-être expliquer aux auditeurs, simplement parce que pour vous c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, comment est-ce que des plantes peuvent séquestrer, permettre de séquestrer du carbone dans les sols?
Eh bien, c'est très simple en fait. C'est ce qu'on a appris à l'école quand on était petit, c'est à travers la photosynthèse. C'est-à-dire que les plantes utilisent les rayons du soleil et le CO2. Le rayon du soleil donc est transformé par la plante en sucre qui ensuite va dans le sol. Donc le CO2 est récupéré à partir des feuilles de la plante, puis va jusqu'aux racines pour ensuite être enfoui dans le sol.
Alors du coup, concrètement, comment cette annonce du gouverneur va se décliner sur le terrain en Californie?
Alors en fait, l'annonce du gouverneur nous donne une orientation à mon ministère et à d'autres organismes parallèles afin de travailler avec l'agriculture, avec la gestion des forêts, afin, par exemple, de protéger nos ressources naturelles. Il s'agit aussi de gérer la manière dont nous retournons nos sols dans le secteur agricole, quel type de culture nous devons planter pour séquestrer le carbone. Il s'agit aussi de couvrir le sol. Et puis, bien sûr, cela nous donne des indications et cela nous permet de planifier quel type d'investissements sont nécessaires dans le secteur agricole.
Mais en Californie, vous n'avez pas attendu cette annonce du gouverneur pour vous intéresser à vos sols, notamment parce que vous avez une grosse problématique de sécheresse ici. Vous avez déjà des programmes de restauration des sols. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors l'an dernier, la législature californienne nous a alloué 7,5 millions de dollars que nous avons à notre tour distribué dans le secteur agricole sous forme d'outils d'incitation pour les exploitants agricoles, pour les éleveurs, afin de les inciter à adopter de bonnes pratiques en matière de restauration et de conservation des sols. Alors, ces subventions ont été maintenant dépensées et nous venons à nouveau de bénéficier de 15 millions de dollars pour le compte des agriculteurs et des éleveurs.
Et donc cette pratique, vous la partagez avec le monde entier puisque vous venez de signer un partenariat, notamment avec la France, dans le cadre du défi mondial pour la santé des sols. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi ce défi mondial?
Eh bien, c'est un défi que nous partageons avec d'autres partenaires pour commencer à inclure le sol dans la conception de nos solutions au changement climatique. Et dans la stratégie que nous avons annoncée lundi, eh bien, nous lançons un défi à d'autres pays, à d'autres États, leur demandant d'inclure le sol dans leur contribution nationale pour faire face à leurs obligations en matière de solutions climatiques. De plus, nous espérons pouvoir encourager le développement de différents programmes de formation visant à permettre de garder le carbone dans le sol.
Kick me out, kick me out. I don't want to hear you. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you. I don't want to hear you. Amazing though, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à San Francisco en Californie à l'occasion du sommet mondial de l'action pour le climat qui a réuni plus de 4000 élus, chefs d'entreprise, représentants d'ONG venus d'une centaine de pays. Et la semaine a été ponctuée par une myriade d'annonces, notamment de la part des plus grandes multinationales. Alors évidemment, cela nous rend sceptiques, mais heureusement, il y a des initiatives internationales comme le Carbon Disclosure Project, que l'on peut traduire par le projet de divulgation des émissions carbone. Cette initiative est reconnue par les ONG et les scientifiques comme fiable. Paul Simpson, son directeur général, nous la présente.
Et
en fait, nous avons créé le CDP en l'an 2000. L'idée, c'était que le changement climatique représentait à la fois des risques, mais aussi des opportunités pour les investisseurs institutionnels et aussi pour les entreprises. Et les investisseurs nous ont dit, mais écoutez, nous avons besoin d'informations, parce qu'on a des informations financières, mais on a besoin de mieux comprendre quels sont les risques et les opportunités liées au changement climatique et quelles sont les stratégies des entreprises pour atténuer ces émissions et même les faire diminuer. Et donc chaque année, les investisseurs demandent aux entreprises de rendre publiques leurs informations en matière de changement climatique, et y compris des entreprises françaises d'ailleurs comme AXA, BNP Paribas, la Caisse des dépôts, qui mettent à disposition des informations concernant le changement climatique, l'eau et la déforestation. Et par exemple, l'an dernier, nous avons eu 6300 entreprises qui ont mis ces informations à disposition via le CDP, et ça représente 55% de la capitalisation boursière au niveau mondial.
Alors tout démarre finalement par une évaluation de l'impact de l'entreprise. Sur quels critères évaluez-vous ces entreprises ?
Alors, c'est vrai que la mise à disposition de ces informations est fondamentale pour une économie durable. Nous les évaluons en matière de risques et d'opportunités que représente le changement climatique pour ces entreprises, quelles sont leurs émissions de gaz à effet de serre, et puis nous leur demandons aussi de donner des outils de mesure de leurs objectifs en matière de réduction des émissions, quels sont aussi les montants qu'elles investissent dans les énergies renouvelables. Et enfin, nous leur posons des questions sur la responsabilité de leur direction.
Et après cette étape, démarre ce que vous appelez le cercle vertueux de la transparence.
Very good.
Oui, je dirais que la divulgation des informations, c'est à la base de tout. Et puis ensuite, avec ces informations, les entreprises peuvent continuer à travailler pour améliorer leur performance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons annoncé que 486 entreprises ont dit oui à l'idée d'objectifs reposant sur des données scientifiques. C'est-à-dire que ce sont des objectifs avec une vision à long terme dans l'esprit de l'accord de Paris. Ces entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions, certes, mais elles envoient aussi un message à la société, aux décisionnaires politiques, pour dire oui, nous soutenons l'accord de Paris et nous continuons à travailler dans ce sens.
Et plus il y a d'entreprises engagées, plus ça crée des émulations dans le milieu économique.
Yes, so these 486 companies.
Oui, donc ces 486 entreprises, eh bien, cela représente 700 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Cela représente aussi une capitalisation de 10 000 milliards de dollars. Et définir ces objectifs, c'est une chose, c'est la première étape. Ensuite, il faut tout faire pour mettre en œuvre les mesures adaptées pour parvenir à cet objectif, c'est-à-dire investir dans les énergies renouvelables, investir dans l'efficacité énergétique, dans l'innovation. Et donc, si vous voulez définir cet objectif, ça déclenche ensuite toute une série d'actions, le but étant bien sûr de réduire les émissions.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'intox là-dedans ? Parce que Pepsi-Cola, qui est extrêmement vertueux, ou Walmart, ou Unilever, on a un peu du mal à y croire.
Pour ces entreprises, il s'agit d'œuvrer dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, non seulement pour des raisons morales, mais aussi pour des objectifs commerciaux, parce qu'il s'agit de faire des choses eh bien, qui sont bonnes pour le business. Donc cela veut dire que ces entreprises comprennent bien quels sont les risques, les débouchés, investissent pour développer leurs débouchés. Le fait, par exemple, de consommer moins d'énergie, eh bien, ça permet de réduire vos coûts. Le fait d'investir dans l'innovation, ça vous permet de créer de nouveaux produits, de nouveaux services et donc d'avoir une plus grosse part du marché. Et puis, tous les constructeurs automobiles parlent des véhicules électriques et investissent dans cette technologie parce que le constructeur automobile qui aura la meilleure technologie, qui aura le prix le plus bas et qui aura le véhicule qui peut aller le plus loin, eh bien, c'est ce constructeur qui va récolter la plus grosse part du marché. Mais je suis d'accord avec vous, pour être honnête, il n'y a pas suffisamment de reprises, il n'y a pas suffisamment de secteurs qui s'engagent dans ce sens et qui procèdent aux modifications nécessaires.
C'est aussi un enjeu financier parce que les investisseurs ont conscience aujourd'hui des changements climatiques. Je pense aux assureurs, par exemple, qui vont refuser de financer de nouvelles centrales à charbon ou en tout cas qui refusent de plus en plus de financer ce type d'infrastructure qui repose sur les énergies fossiles parce qu'ils savent qu'à terme, ce ne sera pas rentable.
Non, absolument.
Donc il est vrai que les investisseurs sont en quelque sorte les gardiens d'énormes montants financiers pour le compte de la population. Et les investisseurs sont en quelque sorte les propriétaires d'une grosse partie de l'économie et ils se sont réveillés. Et ils demandent maintenant aux entreprises de divulguer les informations concernant la politique menée par ces entreprises par rapport au changement climatique. Et puis, ils demandent aussi aux entreprises de définir des objectifs basés sur les données scientifiques et de montrer qu'on a bien compris quels étaient les enjeux et que la gouvernance nécessaire est en place.
Comment ça marche, ce principe de données basées sur la science ?
Donc en fait, tout repose sur cet objectif de 2 degrés au plus. Tout repose sur le fait de savoir comment une entreprise, comment l'économie en fait dans son entier peut faire baisser ses émissions pour parvenir à cette cible de 2 degrés au plus. Bien sûr, chaque secteur peut évoluer de manière différente. Certains secteurs avancent plus rapidement que d'autres. Mais nous, si vous voulez, nous transformons cet objectif en trajectoire pour chaque entreprise. Par exemple, une entreprise peut dire, eh bien, mes émissions aujourd'hui sont de temps. La plupart des entreprises se fixent un objectif à 5 ans, à 10 ans, parfois jusqu'en 2050. Donc, une fois qu'on a défini l'objectif, ensuite, l'objectif, c'est un engagement à réduire ses émissions. Eh bien, c'est la responsabilité de l'entreprise de mettre en œuvre les actions nécessaires pour parvenir à cet objectif et de divulguer les informations pertinentes tous les ans.
Combien d'entreprises aujourd'hui sont science-based target?
Donc je vais vous donner deux chiffres. Il y a 486 entreprises qui se sont engagées à se fixer des objectifs fondés sur les données scientifiques. Et elles ont 2 ans pour définir ces objectifs. Et puis il y a 133 entreprises qui ont déjà défini ces objectifs et ces objectifs ont été approuvés par l'initiative Science Based Target.
Est-ce que vous diriez que le mythe qui consiste à dire que développement durable et croissance économique sont incompatibles commence à s'effriter ?
Oui, vous avez complètement raison là-dessus. Et on peut même renverser ce mythe, c'est-à-dire que pour avoir une économie forte, il faut avoir un développement durable. Les entreprises d'aujourd'hui se rendent bien compte que pour assurer leur réussite commerciale, elles doivent aligner leur stratégie en matière de durabilité. Et je crois que les preuves abondent pour montrer que les entreprises qui adoptent ces stratégies connaissent une croissance plus forte. Les coûts de l'action contre le changement climatique sont bien moindres que les coûts de l'inaction par rapport à ce problème. C'est vrai que la transformation complète de l'économie mondiale, c'est quelque chose d'énorme, mais ça représente aussi des débouchés, des opportunités fantastiques.
C'est un message fort à transmettre aux pays en développement qui aujourd'hui sont en train de faire leurs choix économiques. C'est dans ces pays-là, je pense notamment au continent africain, où de nombreuses entreprises sont en train d'émerger. Donc il faut en effet divulguer cette nouvelle vision qui est celle de l'économie du 21e siècle.
C'est vrai, pour les économies en développement, pour les économies émergentes, il est crucial que ces économies fassent des choix qui soient durables. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité de les aider sur le plan financier, sur le plan des technologies. Mais par exemple, regardez ce qui s'est passé en Afrique. On est passé directement de l'absence de services téléphoniques au téléphone portable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par les lignes fixes. Il faut donc permettre à ces pays africains de faire la même chose, c'est-à-dire de choisir la dernière technologie de pointe, de choisir la technologie la plus durable pour se détacher d'infrastructures anciennes. Mais pour être tout à fait juste, comme je l'ai dit, ces pays ont besoin de technologies et ont besoin des finances adéquates.
Comment une entreprise passe-t-elle d'un modèle polluant à un modèle plus vertueux ? Nous sommes allés poser la question à Alexandra Palt. Elle est directrice générale en charge de la responsabilité sociétale et environnementale chez L'Oréal, un groupe qui a reçu en 2017 la meilleure note du classement annuel des entreprises mondiales par le Carbon Disclosure Project.
L'Oréal, on a un seul métier, c'est la beauté. On est le numéro un de la beauté dans le monde. Ça veut dire qu'on a plus que 39 marques internationales. Il y a des marques que vous connaissez certainement. Ça peut aller de Lancôme jusqu'à Softine Carson, Dark and Lovely pour nos marques africaines. Nous avons plus de 80 000 salariés. On a des filiales dans plus de 70 pays. Plus de 24 milliards de chiffre d'affaires et une entreprise très engagée donc pour le développement durable et la responsabilité sociétale et environnementale.
Alors justement, vous avez défini des objectifs par rapport à 2020. 2020, c'est quand même demain. Hein, dans un programme qui s'appelle Sharing Beauty with All, partager la beauté avec tout le monde. Alors c'est très joli sur le papier, mais concrètement, ça se décline comment ?
Donc c'est vrai que déjà en 2013, on a pris ces engagements-là parce que nous pensons que pour vraiment répondre à ces enjeux importants, il faut qu'on ait une vision. Une vision avec des objectifs chiffrés, avec aussi une ambition. Quelquefois, quand on a pris ces engagements, ils étaient tellement ambitieux qu'on ne savait pas toujours comment on allait y arriver. Donc ce n'était pas des objectifs où à peu près on sait comment on va y arriver. Donc on a dit, on veut réduire nos émissions carbone de 60% par rapport à une ligne de départ 2005. En fait, ça c'est un objectif qu'on a dépassé parce qu'on a réduit nos émissions carbone de 73%. Mais dans ce programme Sharing Beauty with All, donc notre politique développement durable, il n'y avait pas seulement les émissions carbone, il y avait aussi un engagement de dire une entreprise est réellement sérieuse en ce qui concerne le développement durable quand on prend un engagement qui concerne les produits et services qu'on vend. Parce que tant qu'on tourne autour, c'est beaucoup plus facile que vraiment s'attaquer à ce qu'on fait. Donc nous, on a pris un engagement que 100% de nos produits vont s'améliorer. Ça veut dire que quand quelqu'un innove, met un nouveau produit sur le marché, ce produit-là est passé par un outil d'éco-conception pour améliorer son empreinte environnementale et sociale.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, vous avez quand même un problème de base lié à votre cœur de métier qui est la cosmétique, qui est que vous vendez des tonnes de petits pots emballés dans des petites boîtes en carton qui font le tour du monde.
En effet, on ne va pas renoncer à notre métier, hein, mais on va le faire de la manière la plus responsable possible. Et on va aussi beaucoup travailler. Donc c'est vrai que, par exemple, chez L'Oréal, vous avez le flacon de shampoing, sont le plus léger sur les marchés disponibles. On a introduit beaucoup, beaucoup de matières recyclées dans nos packaging, justement, pour arriver à réduire l'empreinte environnementale. Donc, ce qu'on veut, c'est faire notre métier, mais de la manière la plus responsable possible.
Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas toujours été directrice générale RSE d'une grande entreprise. Vous avez un parcours un peu atypique.
Pour moi, il est très cohérent, mais je comprends qu'il peut sembler un peu atypique parce que moi, je suis une militante de longue date sur les questions, d'abord sur les questions féministes, sur les questions de droits de l'homme. J'ai commencé ma carrière chez Amnesty International en Allemagne. J'ai après travaillé pour des ONG. Avant de travailler à la HALT comme directrice de la promotion de l'égalité. Donc c'est vrai que je rejoins l'entreprise, le monde vraiment de l'entreprise en 2012 en allant chez L'Oréal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un seul jour où j'aurais regretté ma décision parce que j'ai l'impression que le monde de l'entreprise, quand on décide d'agir, on a les moyens, on a la possibilité, on a l'agilité pour vraiment apporter un changement.
Il y a beaucoup d'entreprises hein, ici qui sont présentes, qui ont fait des annonces toute la semaine, chaque demi-heure quasiment. Il y avait des annonces de coalition à coût de milliards de dollars. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet écosystème qui est en train d'émerger entre les entreprises, les ONG, parfois des juristes, des économistes, des scientifiques?
C'est un signe très positif parce que ce qu'on voit, c'est que tout le monde a compris que personne ne peut répondre à ce challenge, à ce défi tout seul. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une qualité ici aux États-Unis que le monde économique peut très facilement travailler avec le monde politique, avec les ONG, avec des scientifiques, etc. Après, ce que je pense, c'est aussi que certaines engagements, on voit très très bien qu'ils vont porter leurs fruits et sur d'autres, c'est aussi le temps qui va montrer si on s'engage dans le bon sens ou pas. Mais je pense qu'il ne faut pas décourager ces collaborations parce qu'aujourd'hui, la réponse est là. Après, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut accélérer. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a un message à apporter, c'est que oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui se passent, mais est-ce qu'on va suffisamment vite? Là, j'ai un réel doute.
Il y a eu plusieurs événements cette semaine sur le rôle que peuvent jouer les femmes qui sont principalement vos clientes, finalement, dans la lutte contre le changement climatique. C'est quelque chose qui vous semble important?
Très, très important. Parce que les femmes vont être disproportionnellement être affectées par le changement climatique. Quand vous regardez dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, vous avez quand même des responsabilités qui aujourd'hui sont encore attribuées aux femmes, comme la nourriture. Le changement climatique va rendre plus difficile de nourrir sa famille, comme chercher de l'eau. Ça, on sait quand même sur les risques que le fait de devoir chercher l'eau de plus en plus loin porte sur la scolarisation de jeunes filles, sur la violence faite aux femmes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de domaines où les femmes vont être plus affectées. Et comme les femmes vont être plus affectées, elles doivent aussi faire partie de la solution. Un, leurs voix doivent être entendues, mais aussi on voit quand même qu'on a besoin, et c'est vrai, L'Oréal s'est beaucoup engagé dans ce programme avec le C40 pour faire émerger de nouveaux leaders contre le changement climatique, parce qu'on pense que c'est une responsabilité de faire émerger une génération de femmes qui proposent des solutions, qui inventent des solutions et qui sont vraiment empowered, comme on dit en anglais, donc à qui on donne le moyen de lutter contre le changement climatique, parce que c'est elles qui vont le plus en souffrir.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à San Francisco pour le sommet mondial de l'action pour le climat qui se termine ce soir. Pendant une semaine, les 4000 participants, élus, chefs d'entreprise et ONG venus d'une centaine de pays ont multiplié les déclarations pour démontrer que c'est grâce à leurs engagements que la bataille contre le changement climatique peut être gagnée. Un moment historique qui pourrait dynamiser les décideurs politiques et il y en a bien besoin, comme nous l'explique Laurence Toubiana, négociatrice pour la France de l'accord de Paris et présidente de la Fondation européenne pour le climat.
C'est un moment très important. Dans les deux ans, enfin un an et demi maintenant qui nous sépare de 2020 et de la mise en œuvre pour de vrai de l'accord de Paris, on sent bien la nécessité de recréer un momentum, de voir où on en est, puisque 2020, il faudra bien que tous les pays revoient leurs copies. Réévalue les contributions nationales qu'ils ont présentées en 2015. Et tout ça, ça se passait avant qu'on ait fini de négocier l'accord de Paris. Et donc ce sommet, me semble-t-il, c'est le moment de tester, de voir, de comprendre aussi en quoi la mise en œuvre de ces engagements par des acteurs non gouvernementaux est en train de changer le paysage. Et évidemment, c'est difficile à percevoir. Il y a beaucoup de signaux, beaucoup de chiffres qui sont lancés, beaucoup d'initiatives. Mais après tout, c'est normal parce que la société est diverse et fragmentée. Et que c'est même la réponse de cette société à des gouvernements qui sont plus ou moins ambitieux ou plus ou moins sérieux. Donc c'est un peu un moment clé parce que c'est à la fois pour reconstruire ce momentum, parce que le message qui doit être envoyé au gouvernement, notamment à partir d'ici, c'est en fait, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Si vous aidez, quoi. Évidemment, si vous faites ce qu'il faut du point de vue de la politique gouvernementale. Mais voilà tout ce qu'on a à faire, tout ce qui est possible. C'est ce potentiel qui peut être démultiplié si les gouvernements font leur travail. Et c'est ça le message qu'on retiendra de ce sommet de Californie, je crois. En même temps, il faut que les gouvernements l'écoutent. Alors, il y a beaucoup, finalement, pas mal de gouvernements qui sont présents. Mais il faut que, du coup, la mécanique qui se rapproche des négociations intergouvernementales prennent. Il faut qu'on réconcilie quand même les deux processus.
Oui, parce qu'on a beaucoup entendu en discutant avec les personnes qui interviennent dans ce sommet, dans toutes les conférences, il y a tous les sujets, il y a l'agriculture, il y a les énergies renouvelables, il y a les investisseurs, il y a les villes, enfin il y a beaucoup de personnes qui représentent différentes coalitions et à chaque fois, ce que l'on entend un peu comme un refrain, c'est de dire toute cette action, elle n'est pas prise en compte dans le cadre des Nations Unies, ou en tout cas pas assez, alors que ça nous aiderait, ne serait-ce qu'à vérifier tous les engagements qui sont annoncés ici. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose à réconcilier là ?
Je dois dire que si je regarde un petit peu en arrière, jusque-là, et encore, et sans doute encore avant Paris, les négociateurs étaient très réticents à regarder les questions de l'économie réelle. Ils étaient toujours dans le texte ou les compromis autour du texte. Et petit à petit, ils apprennent. Ils passent de leur rôle de diplomate au fond, ils reviennent à leur réalité nationale et quand même, ils commencent à vraiment prendre, au fond, quel est le problème qu'on essaye de régler au-delà des accords de texte qu'on doit mettre en place.
C'est un peu surréaliste ce que vous dites quand même.
Oui, c'est vrai, mais c'est normal. Vous mettez des diplomates dans une salle, ils font les diplomates, mais ils ne sont pas énergéticiens, ils n'ont jamais monté, je ne sais pas moi, une usine de panneaux solaires. C'est normal. Et maintenant, ça c'est vraiment le passé et c'est en train de se faire. Donc il manque maintenant un petit peu la flamme, je dirais, politique qui permet de dire vraiment, regardez, c'est formidable ce qui se passe. Cependant, je voudrais dire que quand même l'important, c'est ce qui se passe dans l'économie réelle. De toute façon, c'est encore une fois, l'accord, il donne un cadre, mais ce qui se passe, ce qui est important, c'est sur le terrain, dans les pays, dans les régions. Et je trouve ça fantastique quand même, au niveau, en tout cas, des villes et des régions, ce qu'a fait Jerry Brown aujourd'hui en annonçant cet objectif d'émission net zéro d'ici 2050. On en a beaucoup discuté puisque c'est ma fondation et puis un peu tout ce que j'ai fait depuis Marrakech pour porter cette coalition net zéro là qu'on va présenter vendredi matin. Et au début, il n'était pas forcément convaincu, il ne voyait pas comment. Et là, tout d'un coup, il s'est dit je vois comment on va faire. Et c'est ça que je trouve qu'il faut la réconciliation entre le politique et l'économie réelle, c'est que le politique donne à voir, explique, partage qu'est-ce que ça veut dire cette transformation et que ça devienne concret. Donc ça, je crois que c'est leur boulot, aux politiques en tout cas.
Parce que cette neutralité zéro d'ici 2050, il faut réexpliquer aux auditeurs pourquoi 2050, c'est une date importante aussi.
Bien sûr. Et c'est vrai que bon, les chiffres, on en a beaucoup manipulé depuis 10 ou 15 ans. Simplement, il faut bien sûr rappeler que malheureusement, toutes les évaluations des scientifiques sur l'accélération du changement climatique qui nous amènent à dire qu'on a encore moins d'espace que prévu et qu'il faut aller plus vite. Et ce chiffre de net zéro qui est dans l'accord de Paris, même si c'est deuxième moitié du siècle, c'est dire si on ne va pas très vite, on n'y arrive pas. Et puis, encore une fois, les mauvaises nouvelles du point de vue de l'accélération du changement, ce qui se passe dans l'Antarctique, ce qui se passe dans l'Arctique, la fonte du permafrost. Bon, on n'a pas de bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc, puisqu'on n'a pas de bonnes nouvelles, il faut accélérer le pas. Et c'est le message de Net Zéro en 2050.
Alors, expliquez ce que c'est Net Zéro.
Alors, c'est dire qu'on arrive à compenser totalement les émissions d'origine humaine, évidemment. Et on les compense. D'abord, on les réduit massivement. Et c'est vrai que le chiffre qu'on avait retenu, c'était il faut que les émissions mondiales diminuent de moitié d'ici 2050. En 2050, en tout cas, il faut qu'elles soient réduites de moitié. Et maintenant, on voit que ça ne suffit pas à cause de cette accélération du phénomène. Donc, ça veut dire que... c'est assez concret. Ça veut dire que pour la plupart des pays développés, enfin, tous les pays développés et beaucoup de pays en développement, y compris la Chine, on va vers zéro émission. En espérant que quand même les forêts, l'agriculture pourront compenser quand même les émissions qui resteront. Ou alors on va découvrir vraiment des procédés pour extraire le carbone et le stocker dans le sol, dans les fosses marines, mais on sait que c'est quand même pour l'instant encore très aléatoire. Donc ça veut quand même dire globalement on décarbone complètement l'industrie, on décarbone complètement les transports, donc on les électrifie. Ou alors on trouve des combustibles de substitution. Et on a une agriculture qui est beaucoup plus contributive à cette réduction des émissions qu'aujourd'hui. Donc on prend chaque secteur et on sait que le secteur industriel doit profondément changer. On peut faire aujourd'hui de l'acier, de l'aluminium, des produits chimiques, entre guillemets, qui sont zéro carbone. On commence à voir les technologies. Sauf que maintenant, il faut que ce soit général. Et c'est pareil pour les transports publics, privés et publics. On sait que maintenant, il faut électrifier et avoir de l'électricité propre. Bon, les avions, c'est un peu autre chose, mais quand même, il faudra aussi des combustibles propres. Donc c'est juste, c'est ça, c'est pas un peu, comme on disait avant, on réduit un peu. Non, on change. On change la base matérielle de notre économie.
Avec une notion d'urgence que vous rappeliez, et aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la trajectoire de ce zéro émission en 2050.
Non. C'est ça qui est évidemment préoccupant, c'est la dissonance cognitive on voit ce qui se passe, on voit que ça s'accélère. Bon, je crois que plus personne. Je crois qu'il y a les vagues de cet ouragan Florence, c'est 25 mètres, donc c'est haut, quoi.
Cet ouragan qui arrive sur la côte est des États-Unis. Pile au moment du sommet, c'est un peu ironique quand même.
Oui, ironique d'ailleurs, et notamment dans des régions qui ont toujours pensé que ce n'était pas la peine de s'en occuper, qu'il valait mieux ne plus investir dans les données météo et qu'il fallait surtout changer les modèles qui permettaient de regarder et la montée des océans et la violence des tempêtes qui pouvaient advenir. Donc c'est des gens qui se sont dit, on bouche les yeux, c'est formidable, de cette histoire sur l'organisation de la météorologie dans un certain nombre d'États américains qui subissent de plein fouet l'ouragan. Donc ça va être intéressant d'en voir les conséquences qu'ils vont en tirer. Donc ça s'accélère, et en même temps on dit, est-ce qu'on ne peut pas attendre encore un peu, quoi. Et c'est là où le mouvement de ce qui se passe dans les entreprises, et notamment dans les villes, parce que je pense que c'est là qu'on voit les choses les plus nettes, les plus décidés, peut-être font penser au gouvernement qu'ils ne vont pas risquer leur vie politique parce qu'ils agissent de façon nette et déterminée maintenant. Et parce que c'est ça le problème. On attend parce qu'on ne sait pas si on sera soutenu. Donc je crois que là, il y a un rôle pour la société civile tout à fait nouveau, parce que sinon les gouvernements n'auront pas le courage. Ça, c'est la même chose en France, hein, ou en Allemagne, ou... ils ont besoin d'un message de la société, donc il faut y aller.
Et oui, il faut y aller. Vous trouverez toutes les vidéos des conférences de ce sommet sur le site globalclimateactionsummit.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like why.
like folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally. What? I'm ready to go right now, your racist ass did. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah.